Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et j'accompagne une grande communauté de freelance comme toi pour les aider à progresser dans leur activité. Et dans cet épisode, j'échange avec Nuna Delphine Yeo, qui est justement une des membres de cette communauté et qui, au moment de notre enregistrement, venait tout récemment de déménager son activité et sa vie de Toulouse, dans le sud de la France, à Montréal, au Québec. Et dans notre échange, on aborde tous les impacts de ce déménagement d'activité. La relation avec ses clients et ses clientes qui évolue, son organisation, comment elle gère son temps, son arrivée sur place dans un environnement inconnu où du coup elle ne connaissait ni la ville ni les êtres humains qui la peuplent. Et il y a de nombreuses choses à tirer de cet épisode pour te faire réfléchir à tous ces sujets. Qu'est-ce qui se passe si je déménage? Ou d'ailleurs si tu ne déménages pas aussi, parce que tous ces sujets sont transversaux. Alors, installe-toi bien pour profiter de la conversation et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper de la suite de cette saison et des prochaines. Et on se retrouve, toi et moi, à la fin pour le petit débrief. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Nuna.
Merci.
Je suis très heureux de t'accueillir là, surtout que du coup, j'adore ces moments, c'est arrivé pas beaucoup,
ouais.
Mais où des personnes qui de base écoutent le podcast, qui ensuite passent de l'autre côté du micro, j'adore cette espèce de petit cycle qui j'espère va se répercuter pendant encore longtemps.
J'espère.
Si je continue pendant longtemps ce projet, mais je pense qu'il tient bien à cœur. Donc voilà, bienvenue, très heureux que tu sois.
Merci, mais très heureuse aussi, enfin ça se voit pas. Si, ça doit se voir. Mais oui, très heureuse, honorée et en même temps admirative aussi. C'est vrai que c'est vrai qu'on passe, t'as l'impression de regarder la télé et puis de rentrer dans la télé en fait avec ton animateur préféré. Tu te dis, oh, je suis là. Je vais dire à toutes mes copines que je suis là.
Bah, j'espère que tu partageras bien ce podcast.
Oh oui.
Très cool. Et du coup, je suis très heureux notamment qu'on se retrouve ici à Montréal parce que c'est nouveau pour toi. Tu disais tout à l'heure, ça fait 3 mois que tu es ici.
Exactement.
On en parlera un peu. Mais de base, tu ne viens pas de Montréal, tu étais à Toulouse jusqu'à récemment.
Tout à fait. J'étais à Toulouse mais jusqu'au 30 juin. Et on est arrivé, oui, on est arrivé ici le 30 juin, c'est
donc
ça.
C'est marrant de se retrouver pas en France, mais de l'autre côté.
C'est vrai, c'est vrai. Mais dès que j'ai su que tu venais à Montréal, je me suis dit, il faut pas rater l'occasion de se rencontrer, surtout ici.
Ouais. C'est fait bizarre. Du coup, je viens plus régulièrement presque à Montréal que je ne vais à Toulouse. Je ne devrais pas dire parce que mes sœurs sont à Toulouse en plus. Mais... Passons, on va vite passer à la suite.
On oublie.
La première question qui est celle que je pose à toutes les personnes qui passent derrière ce micro, que tu connais aussi du coup, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante ? Tu peux, si on repart du début du coup.
Alors, je suis devenue indépendante, on va commencer par le comment, par opportunité. On va dire. En 2017, je me suis inscrite auto-entrepreneur, mais parce que juste avant, j'avais créé une association, l'association Ayoka, qui venait en aide, qui donnait la parole aux femmes noires qui étaient moins visibles. On essayait de faire des événements autour de la femme noire, parce qu'on voyait beaucoup d'événements à Paris. Nous, on était à Toulouse et puis on se disait, il n'y a rien qui se passe à Toulouse. Mmh. Et en créant cette association, mais il fallait bien faire de la communication, parler de l'association sur les réseaux sociaux notamment. Mmh. Et donc, on s'est mis à apprendre le marketing digital et tout ça. Mmh. On s'est mis tranquillement nous-mêmes en apprenant toute seule. Et puis, j'ai eu une opportunité juste après ça, une amie qui m'a demandé de s'occuper de ses réseaux sociaux. Et pour que ce soit légal, j'ai dit, écoute, je vais m'inscrire au auto-entrepreneur, comme ça, au moins, c'est légal, j'ai une entreprise, on le fait dans un cadre légal. On le fait les choses bien. Marie-Josée, oui. Que tu connais.
Ok, trop bien. Et du coup, quand tu dis « on » pour l'association, c'est que vous étiez plusieurs ?
On était plusieurs. Alors, j'ai eu l'idée, et après, on l'a créé avec une autre amie, Alphée, et ensuite, Marie-Josée nous a rejoint dans l'association avec d'autres amis. On était six, sept, finalement, en fait, à gérer l'association. Donc, quand Marie-Josée me l'a proposé, je me suis inscrite auto-entrepreneur. On a commencé à travailler ensemble sur son projet, sur MJY Consulting, créer les réseaux sociaux, aller savoir comment faire sa newsletter, travailler les articles de blog. Donc, j'ai pris plein de formations au fur et à mesure. On s'est formés toutes les deux au fur et à mesure sur tout ça. Et puis je me suis dit, mais c'est cool en fait, ça me plaît ce truc.
Trop
c'est trop bien. Et puis de bouche à oreille, on en a parlé à d'autres personnes qui m'ont demandé de l'aide. Et puis en même temps, j'étais salariée. Et puis je me disais, mais c'est vrai que ça commence à me prendre du temps. Peut-être qu'un jour, je vais être à temps plein dessus. Et j'ai eu un dernier contrat qui s'est terminé en 2019 et c'était exactement le moment où mon compagnon pensait à venir à Montréal avec son entreprise et je me suis dit c'est peut-être le moment là en fait, au moment où il part, pour ne pas être submergée avec les enfants, j'essaie de me mettre à mon compte complètement, à temps plein, freelance à temps plein, je vais voir ce que ça donne, je vais voir si j'aurai des clients et puis on verra par la suite. Donc c'est comme ça que je suis devenue freelance, ou en tout cas auto-entrepreneur, et que ça continue aujourd'hui. J'ai bifurqué à un moment en fait, je suis passée de virtual assistant, on va dire, à business manager, Sonia Lerombourg, tu connais, exactement, et puis depuis ça continue, voilà.
Trop bien.
Donc le pourquoi, il est un peu dans le comment, enfin moi je dis toujours, et c'est toujours le cas, j'ai une personnalité à vouloir aider tout le monde, c'est vrai, je veux toujours aider, et même dans mon travail salarié, j'étais assistante de gestion, j'étais assistante administrative, et ça a toujours tourné un petit peu autour de ça. Moi je vais être, la faiseuse de star en fait, aller devant, même dans l'association, aller devant, et puis moi je suis derrière, celle qui travaille, la petite souris qui travaille un petit peu dans le fond, mais qui s'éclate à travailler dans le fond pour que les autres en fait brillent, pour qu'il y ait un projet qui soit mis en avant. Donc ça a toujours été ça mon leitmotiv et c'est toujours le cas.
Ça se manifestait dans d'autres endroits de ta vie, du coup, avant l'indépendance.
Complètement.
Ce job.
Complètement, parce que tu demandes à toutes mes sœurs ou toutes mes cousines, c'est moi qu'on allait chercher, notamment pour organiser les mariages, les fêtes d'anniversaire, des trucs de ce genre. Donc oui. Enfin, ça a toujours été ça. Vraiment, toujours été ça. Il y en a qui en abusent, mais bon. C'est le jeu.
Ok. Et du coup, ouais, tu dis, t'as commencé à côté de ton emploi salarié jusqu'à du coup 2019.
C'est ça.
Et là, c'est full time après. Est-ce qu'il y a eu un changement dans un peu un changement de paradigme entre les deux quand tu faisais ça à côté d'un autre emploi ? D'ailleurs, c'était quoi cet emploi ?
Mon dernier emploi, j'étais assistante de gestion dans une compagnie d'assurance.
D'où la partie assistante virtuelle.
C'est ça. Tout à fait.
Et qu'est-ce qui a changé entre les deux quand t'es passé de je le fais à côté de mon job et après je passe à full time ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changer peut-être ton positionnement, j'ai l'impression.
Oui. Exactement.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont été différentes une fois que, ouais, ça y est, j'ai de la semaine entière pour travailler là-dessus?
Mais mon organisation, en premier. Et c'est là où je me suis dit, bah, soit tu es bonne en organisation, comme on te le dit, soit tu ne l'es pas du tout et ça va être prouvé maintenant. Parce que ça a été pile aussi le moment où mon compagnon est parti. Donc, il fallait trouver une bonne organisation pour ne pas procrastiner toute la journée, en fait.
Ouais.
Se dire, OK, je dépose les enfants le matin, mais il faut que j'ai des routines précises pour travailler pour moi, pour mes clients. J'en avais deux à ce moment-là, le matin ou l'après-midi, peu importe, mais il faut que j'ai des routines bien établies, bien précises, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, à ce moment-là, oui, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'avais déjà pris un peu un rôle de chef d'entreprise que je n'avais pas avant. Avant, je me considérais simplement assistante.
Okay.
Et puis à ce moment-là, je me dis non, je suis une entreprise à gérer. Il faut que tu gagnes de l'argent avec, mine de rien. Il faut que ça tourne. Donc, pour que ça tourne, il faut être organisé notamment, mais il faut aussi suivre pas mal de choses. Il faut continuer de te former. Faut avoir des routines. Oui, ça se résumait un petit peu à ça. Donc ça, c'est énormément changé à ce moment-là. Et puis comme tu dis, mon positionnement aussi, parce que je me suis dit, mais en fait, je sais beaucoup de choses, mine de rien, pour être simple virtual assistant, mais sans dénigrer le métier. Enfin, j'adorais ça, j'adore toujours ça d'ailleurs. Mais il y a un moment, je me suis dit, mais face à mes clients, j'ai l'impression de parler un peu plus stratégie. J'ai l'impression d'aller un peu plus haut dans la pyramide, en tout cas dans ce que je travaille avec eux, au lieu de rester simplement dans l'opérationnel. Et en cherchant un petit peu, en fouillant un petit peu, je me suis dit, mais en fait, il y a un métier qui existe pour ça.
Ouais.
On peut passer d'assistante virtuelle à business manager. Et puis, il y a des formations pour ça. Il y a des gens qui font ça. C'est un vrai métier. Mais donc, on va bifurquer à ce moment-là.
Ouais, du coup, prendre un rôle peut-être un peu plus engagé auprès des personnes que tu accompagnes.
Exactement. Et plus à 360, plutôt que de rester, par exemple, que sur de la programmation de poste, on va aller parler calendrier éditorial. On remonte un petit peu, mais calendrier éditorial, on est obligé de parler forcément de mission, de pourquoi, de catégorie. Enfin, donc forcément, en fait, on en apprend un peu plus. Et forcément, on voit le business un peu à 360 plutôt que la petite partie que je voyais à chaque fois dans les business.
Et du coup, je te pose cette question de qu'est-ce qui a changé entre je le fais à côté de mon emploi et je passe à plein temps. Est-ce que je veux te reposer la même question sur qu'est-ce qui a changé entre là, du coup, depuis 2019 où tu es à plein temps là-dessus et je sais pour l'avoir vu et observé à distance qu'il s'est passé plein de choses dans cette période. Qu'est-ce qui a changé ensuite au moment de ton déménagement ici, parce qu'on est quand même presque de l'autre côté du monde. Il y a 6 heures de décalage horaire avec la France.
C'est
je le ressens pas mal là, j'ai l'impression. Il est 22 heures dans mon corps.
Les premiers jours sont difficiles.
Les premiers jours sont pas évidents. Donc je le ressens beaucoup, ce décalage horaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé pour toi au moment de ce déménagement où du coup t'as suivi ton mari qui est venu installer son entreprise, c'est ça?
Oui.
Et toi, t'arrives 2 ans après. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci dans ton activité de freelance? Est-ce que t'as conservé tes clients? Est-ce qu'au contraire, t'as dû les lâcher? Enfin voilà, je suis curieux de... Qu'est-ce que ça change de délocaliser ta boîte de la France au Canada, quoi?
Le décalage horaire change tout.
J'imagine.
Ça change tout, mais j'avais de la chance. Enfin, c'est comme si c'était écrit, parce qu'à ce moment-là, les deux clientes que j'avais, il y en avait une à Tahiti.
Okay.
Et l'autre était à Port-au-Prince en Haïti.
Okay.
Donc déjà, j'avais un décalage horaire avec elle en France. Le décalage horaire, il s'est réduit en arrivant
ici.
Donc c'était mieux en arrivant ici pour elle de travailler avec elle. Et j'avais peut-être une ou deux clientes françaises, mais c'était pas sur du long terme. Okay. Et là, oui, il a fallu réajuster les choses et leur dire, bon, il y a quand même 6 heures, c'est pas 2 heures de décalage. 6 heures, c'est énorme quand même.
Ouais.
C'est-à-dire que quand vous dormez, moi, je me lève. C'est un peu ça. Donc il a fallu se réajuster sur ça. Et puis, toute l'organisation derrière, forcément, on prend un coup. Là, quand on est arrivé un peu comme toi, les 3 jours, on a passé 3 jours, on était obligé de passer 3 jours à l'hôtel en confinement. J'ai eu la chance pendant ces 3 jours de dire à mes clientes, pendant quelques temps, de toute façon, je déménage, on va poser les choses, je vais rien faire. J'avais anticipé un petit peu avant et pendant ce temps-là, je prends le temps déjà de me mettre dans le décalage horaire, moi-même de le sentir et puis après de voir comment je peux réajuster les choses. Donc, j'ai refait mon organisation, j'ai refait mon calendrier, j'ai essayé de récupérer mes routines d'avant. C'était pas évident. Récupérer mes routines d'avant pour avoir assez d'énergie pour me dire, OK, je peux me lever à 6 heures ici, travailler à 6 heures alors qu'il est midi en France, sans que ça soit trop difficile pour moi d'enchaîner avec le reste de la journée. Et avec les enfants qui, là aussi, reprenaient une nouvelle école ou une nouvelle routine, il fallait repenser à tout ça. J'ai pris le temps, en tout cas, de me poser pendant un mois, de réfléchir à tout ça, et puis après, installer les nouvelles routines.
Ouais, donc, t'essayes quand même de caler un peu ton mode de fonctionnement oui. par rapport au fait qu'il y a un décalage d'horaire avec
tout à fait.
Tes clients, ta clientèle actuelle.
Tout à fait.
C'est quand même comme ça que tu essaies d'organiser pour continuer de bosser avec ça.
Oui, les clients d'abord. Je suis people pleaser. C'est, okay. c'est complètement moi. C'est les gens avant. C'est peut-être pour ça que ça marche bien aussi dans mon entreprise. C'est les gens avant et puis c'est les clients avant moi. Donc oui, même jusque-là, c'est ce que je fais. Tous les rendez-vous, tous les calls qu'on doit faire avec les clients, c'est à 6 heures.
Wow.
C'est 5 heures, 6 heures, histoire que je sois sûre qu'eux, ils sont déjà à midi. Et puis après, quand je bosse pour eux, dans la journée ou à midi ou tard le soir, au moins à ce moment-là, ils dorment. Je travaille pour eux. Quand ils se lèvent le lendemain,
incroyable.
Ils y sont encore.
Et c'est pas trop dur pour toi, ça ? Enfin, moi, je me dis, waouh, c'est niveau de dedication plus. Pour eux, j'imagine que ça doit être incroyable.
Si, wow,
il est 5 heures du mat, tu fais vraiment ça ? Donc, incroyable en termes d'engagement, mais c'est pas trop dur pour toi ? Enfin, je suis curieux.
Ça commence à le devenir. Mais je dis ça oui et non en même temps parce que j'ai la chance, je ne sais pas si on doit appeler ça une chance, mais de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil.
Ok.
Et de récupérer facilement dans des petites siestes après. Donc oui, enfin, dormir 3-4 heures par nuit, pour moi, c'est bon. 5 heures, 6 heures par nuit, j'ai l'impression de m'ennuyer au lit. C'est vrai, je serais debout, mais je suis en train de lire.
Oui, c'est vrai.
On me dit toujours ça, mais non, au bout de 6 heures, je vais aller écouter un podcast, je vais aller lire un livre, mais non, 6 heures au lit, c'est trop.
Alors, effectivement, peut-être que c'est un super pouvoir, on en a tous
ça un. Ça doit être ça.
Ça doit être le tien.
Mais ce que je faisais, tu vois, jusque-là en France, c'est que j'avais toujours un moment où, au bout d'un mois et demi, au bout de deux mois, je prenais un week-end entier, j'allais me reposer seule quelque part, loin de tout et de tout le monde. Ce que je n'ai pas encore fait ici. Ça fait trois mois et là, je commence à le ressentir, tu vois.
Ouais.
Donc, mais j'ai besoin de ça. Ouais.
Ce cycle, tu parlais de rituel tout à l'heure, cette espèce
c'est
de
ça.
Rituel.
C'est
de
exactement ça.
Presque.
C'est ça. Je laisse mes enfants, je laisse tout le monde, je sais, c'est même pas forcément partir loin, je me fais des week-ends staycation toute seule, même si c'est juste à l'hôtel, au bord de la rue, à côté de la maison, peu importe, mais j'ai besoin d'être seule, en fait, d'être dans ma bulle pendant un moment, de penser à rien d'autre, de penser rien qu'à moi ou à rien du tout, en fait, et aucune sollicitation à côté pendant un ou deux jours, et ça, de cette façon, je récupère de l'énergie et puis je peux repartir après.
Ok. Et comme on parlait de tes clients avant, c'était comment pour tes clientes en France ? Enfin, le déménagement, j'imagine que c'était pas nouveau, donc elle savait que ça arriverait un jour.
Oui.
Mais comment ça s'est passé dans votre relation ensemble ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu la question de peut-être qu'on arrête de travailler ensemble ou pas ? Je suis curieux de comment tu as géré ça dans la relation client, parce que j'imagine, pareil, de changer tout avec le décalage horaire et tout.
Oui.
Ça pose des questions sur une relation avec un client, quoi.
Alors, il n'y a pas eu, j'ai de la chance aussi là, il n'y a pas eu la question de on arrête de travailler, mais c'est plutôt la question de comment on continue à travailler ensemble. En termes d'horaire, mais aussi en termes de est-ce que finalement ce sur quoi je te laisse des responsabilités, est-ce que ça ne fera pas trop pour toi, vu le temps que tu auras après ou vu les horaires qu'on aura après
question.
Oui.
C'est
donc. Donc oui, on en a discuté avec chacune d'entre elles, on en a discuté. Avec une d'entre elles, j'ai arrêté le contrat parce que c'était ce qu'elle demandait était beaucoup plus intense ou bien ça me demandait trop justement d'implication à ce moment-là, surtout au moment du déménagement en fait où elle en avait besoin et je pouvais clairement pas. Donc oui, là on a arrêté la relation mais tranquillement, doucement.
Ouais.
On a arrêté des choses petit à petit, j'ai livré ce qu'il fallait livrer et après on s'est dit bon, on va s'arrêter là sans fermer la porte non plus, juste en se disant ben le temps de t'installer, le temps de poser les choses et puis après on voit comment on revient. Donc les autres non, avaient très bien compris et ont compris que ça allait peut-être à un moment être plus lent en fait. Il fallait pas qu'il y ait de période de lancement de formation en ce moment-là, c'est ça.
C'était clairement ça.
C'est ça, c'était clairement ça. Mais après, oui, je pouvais revenir petit à petit et ça a été le cas.
C'est trop cool d'avoir... c'est un truc dont tu sais que je parle souvent et qui me tient à cœur, ce côté qu'on choisisse la personne avec qui on travaille, donc imaginons je suis client, qu'en tant que freelance on veut qu'on nous choisisse pour la personne qu'on est et pas juste parce que c'est avantageux sur le prix
c'est
ou
vrai.
Quoi que ce soit.
C'est vrai.
Et j'ai l'impression que c'est ça, peut-être ça qui fait qu'il y a cet espace de conversation de on veut continuer de travailler ensemble malgré le fait que bon, il y a une nouvelle complexité des 6 heures de décalage.
Tout à fait.
C'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça. Ce côté humain, il est très important, surtout dans mon métier. Et c'est complètement ça, parce que j'ai pas envie de dire qu'ils sont devenus des amis, mais c'est devenu plus que des clientes, en fait, qui comprennent justement l'importance de la relation humaine qu'on a d'abord, ouais, avant la relation de travail. Ouais. Donc dans les deux sens, c'est beaucoup plus simple quand on comprend ce côté humain, cette relation humaine, c'est beaucoup plus simple de poser certaines choses, de mettre des limites, de faire des pauses, de dire, ouais, là, je peux pas, enfin, que l'autre le comprenne. La compréhension des difficultés est beaucoup plus simple quand c'est,
ouais,
comme ça.
L'acceptation des limites de chacun.
Complètement. Complètement.
Et du coup, bon, pour Marie-Josée, j'imagine que c'est fluide et ça vient du fait que vous avez travaillé ensemble, oui, sur un projet commun. Et
tout
du coup,
à
ça
fait.
Facilite les choses quand elle devient ta cliente. Mais pour les autres, est-ce que tu as des choses que tu as mises en place, que tu as faites, ou peut-être des rituels dans comment tu travailles qui t'ont permis de créer cette connexion avec elle, plutôt que voilà, quelqu'un que tu trouves au hasard et tu fais ce que tu as à faire et voilà quoi. Est-ce que tu as des choses que tu as, pour les gens qui nous écoutent notamment, qui se disent, ah tiens, moi j'ai pas cette relation avec mes clients, mais j'aimerais trop. Est-ce qu'il y a des trucs concrets que tu as fait?
Concrets, j'ai envie de dire, pas des appels réguliers, mais des SMS réguliers.
Ok, donc communiquer régulièrement.
Communiquer régulièrement, mais notamment, bah, tu vois, quand je dis SMS ou WhatsApp, des choses qui vont rapidement, et puis des petites choses, ne serait-ce que pour dire comment ça va aujourd'hui. Enfin, rentrer dans une relation où. Quand j'ai créé mon entreprise au départ, quand je réfléchissais sur mes missions, sur mon pourquoi, je disais que je voulais aider les entrepreneurs qui étaient très débordés à s'organiser, pour aller plus loin dans leur activité, pour être plus concentrés sur l'essentiel de leur activité, sur leur cœur de métier. Mais je disais que je voulais aussi que tout ça ait une incidence sur leur vie personnelle, et que surtout leur vie personnelle est plus importante que tout le reste, en fait. Parce que si finalement, en faisant ça, en déléguant, en ayant cherché une assistante virtuelle ou une business manager, ils n'étaient finalement pas bien dans leur vie personnelle, c'est qu'il y avait quand même un souci quelque part. Donc, tu vois, j'ai toujours essayé et j'essaie toujours d'appuyer un peu sur ça, sur ce côté personnel, sans forcément aller chercher dans la vie de chacun, mais en créant des petits rituels et des petites choses, en fait, qui vont rester dans la relation comme ça. Un cadeau de fin d'année, un cadeau d'anniversaire. Tu vois, pour moi, c'est la base. Là, ouais, c'est tranquille. Là, je serai en retard dans mes cadeaux de fin d'année. Je suis en train de me dire, mais j'aurais dû m'y prendre avant.
T'inquiète, le podcast sortira le prochain.
C'est bon.
Ça me sera.
C'est bon. Ils sont dans les quatre coins du monde, en plus. C'était ça qui était le plus compliqué. Mais oui, c'est ça. J'ai toujours essayé, en tout cas, d'aller au plus profond de ça, et puis de partager des tests de personnalité, des choses comme ça, de dire, ah oui, moi j'ai fait le MBTI, je suis avocate, toi tu es quoi, INFJ, oh, ah oui, on peut se comprendre, tu vois, des petites choses comme ça, donc ça aide aussi, ça aide beaucoup.
C'est hyper intéressant, parce que ce qui m'est apparu quand tu disais ça, quand tu dis, genre, tu poses la question à tes clients, comment ça va aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien, tout ça, en fait c'est presque ça ton outil de mesure pour savoir est-ce que je fais bien mon travail finalement. C'est pas,
c'est vrai,
ah on a super bien fait le lancement ou quoi.
Non.
Quand tu dis dans ma mission je veux que ça ait une implication et des incidences sur leur vie personnelle, de comment on se sent au quotidien, est-ce que je vis bien mes projets, ma boîte et tout, en fait c'est là où ça se joue, tu vois, émotionnellement au quotidien, si tes clients, le lancement se passe hyper bien mais tes clients sont tout le temps stressés, c'est peut-être pas là, du coup t'es en train de te dire, ok, mon travail je le fais pas parfaitement par rapport à ma mission.
Exactement. C'est vrai, c'est vraiment comme ça que je le prends. C'est vraiment comme ça que je le prends. Il y a la partie théorique, c'est très bien. La mission va bien se passer. Oui, le lancement va bien se faire. Ok, d'accord. Mais derrière, toi, tu es comment? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que pendant le lancement, tu as pris le temps de te reposer? Parce que justement, j'étais là et que je suis là pour ça, en fait, pour que tu prennes le temps de te dire, pause, ça va bien se passer. On est deux, je suis pas seule, en fait.
Ouais, c'est ça.
Donc,
là, le vrai objectif.
C'est ça, c'est le vrai objectif.
Clients,
donc, si à la fin, je te trouve toujours aussi stressée ou bien, enfin, ouais, je me poserai la question. Ou il y a quelque chose qui n'a pas marché, ou j'ai pas vraiment apporté ma touche, ou bien j'ai pas réussi, en tout cas, ma mission jusqu'au bout.
Ouais. Et c'est super intéressant parce que je pense que, tu vois, de manière globale, je réfléchis aux gens qui nous écoutent parler aussi. On se limite très rapidement sur, ok, c'est quoi le vrai truc que je délivre, où on se dit que c'est le truc qu'on donne à la fin.
Oui.
Genre là, par exemple, on le fait de manière filmée. Peut-être que Guillaume, qui est là et qui gère la partie vidéo, se dit, bon, voilà, ce que je délivre, c'est la vidéo à la fin. Mais est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Est-ce que c'est pas la clarté et la facilité que moi j'ai ou Kylian a avec les autres épisodes qu'il fait, de se dire, ça, je sais que je gère pas. Et qu'il y a quelqu'un qui a toutes les clés en main, moi j'ai juste à m'asseoir et parler quoi.
C'est ça.
Et ça, ça a plus de valeur presque que la vidéo au bout, parce qu'on vit toute la semaine d'enregistrement intense avec beaucoup de sérénité. Et je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent aussi se poser cette question de, ok, au-delà du livrable, de ce que je donne à mon client, c'est quoi le vrai truc que je lui apporte?
Tout à fait. Exactement. Exactement. Et je prends l'exemple souvent de marques de mode ou ce genre de choses enfin, sur l'expérience client, il y en a certaines qui sont mais à un niveau au-delà, tu as l'impression de faire partie de la famille alors qu'on te connaît pas du tout parmi les millions de membres. Mais ne serait-ce que la petite attention, le petit mot écrit à la main, le petit mail, des fois c'est pas juste pour aller te vendre quelque chose en plus, mais pour te souhaiter un joyeux anniversaire sans rien derrière, ou alors juste pour savoir comment s'est passée l'utilisation du produit qu'on t'a vendu derrière. C'est des petites choses comme ça, mais qui au final compte presque plus que ce que tu as acheté. Je veux dire, le produit serait finalement pas arrivé, c'est pas très grave, parce qu'on a pris soin de moi en fait. Et je pense que c'est ce qu'on recherche un petit peu tous, un petit peu d'attention, un petit peu qu'on prenne soin de nous, qu'on s'occupe un peu de nous à des niveaux différents, c'est sûr. Mais je pense qu'on a tous besoin de ça.
Trop intéressant. Je pensais pas qu'on arriverait sur ça.
Cool. Moi non plus.
C'est une bonne réflexion. Non, mais c'est parce que je pensais pas qu'on atterrirait sur ça, parce que un peu l'angle de réflexion que j'avais pour notre discussion, c'est tout ce qui change dans le fait de, entre guillemets, déraciner ton entreprise de Toulouse et l'emmener à Montréal. Mais finalement, dans ce qui change, c'est effectivement comment je repense mon organisation, mes outils, ma manière de travailler pour continuer de prendre soin, comme on dit là, du vrai objectif que tu as pour tes clientes, qui est, vous en faites pas, ça va bien se passer et dans votre vie perso, ça va bien aller, parce que ça pourrait recréer du stress, tu vois, de se dire, ok, maintenant, Nuna, elle est à Montréal, du coup, est-ce que ça va bien se passer? Enfin, voilà, ça pourrait être créateur de stress, et c'est du coup, d'où le fait de devoir repenser, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas.
Et une autre question que je voulais te poser, c'est, depuis que tu es arrivé ici, tu as repris un emploi salarié?
Oui.
Et du coup, j'étais curieux de la réflexion autour de ça. Du fait que, ok, j'ai déjà des clients en indépendant et avec ma boîte, mais en arrivant ici dans un monde complètement nouveau, t'es repassé par une case de je prends un emploi à côté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la réflexion derrière?
Alors, la réflexion, elle a eu plusieurs phases et elle était intense. Parce que en partant de Toulouse, je me suis dit, j'ai pas envie de reprendre un emploi salarié parce que je sais ce que c'est le salariat et que surtout là je suis dans une phase où je suis en train de développer mon activité et j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ce que je veux faire avec ma petite entreprise parce que je vois beaucoup de choses là qui arrivent et qui peuvent arriver que je peux mettre en place. Et j'aurais pas le temps si je prends un emploi salarié finalement de m'investir à fond pour ça. Ça c'était déjà le premier pan de la réflexion. Le deuxième pan c'était quand je suis arrivée que mon compagnon m'a dit mais tu vas rester seule à la maison dans un pays où tu ne connais personne, dans une ville où tu ne connais personne, alors que tu pourrais aller rencontrer du monde et que peut-être même que ces personnes finalement deviendront tes clients plus tard, tu sais pas. En tout cas, va réseauter, va tester quelques temps et puis tu verras. Et puis de toute façon, même si à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois parce qu'il y a un manque énorme d'emploi salarié. Enfin,
petite invitation aux gens qui nous écoutent.
Tout à fait. Il y a énormément. Moi, je bosse dans les TI et puis les offres d'emploi, il y en a énormément en ce moment, je le dis. Malgré ça, au-delà de ça, si tu ne vas pas chercher, en fait, si tu ne vas pas tester, tu ne sauras pas à quoi ça ressemble aussi le monde du travail ici. Donc va tester et puis tu verras. Et puis de toute façon, généralement, les gens qui arrivent, ils prennent des mois à trouver un emploi malgré le fait qu'il y en ait beaucoup. Donc prends le temps et puis tu verras comment ça se fera. Et donc on est arrivé quand? On est arrivé donc le 30 juin, je t'ai dit. Mi-juillet, lui me présente c'est pas vraiment un collègue, quelqu'un avec qui il a travaillé il y a très longtemps, avec qui ils se sont retrouvés dans un espace de coworking ici et qui lui dit qu'il a besoin de quelqu'un. Enfin, il y a deux personnes qui viennent de démissionner dans son équipe et qu'il aimerait, voilà, il est en train de chercher du monde autour. Donc il m'a dit, écoute, va passer l'entretien. Il a besoin d'une adjointe administrative et puis le deuxième poste, je sais pas trop ce que c'est. Donc j'ai pas trop envie.
Mais bon.
Mais je me dis, pourquoi pas, je vais y aller, on verra bien. Donc je m'en vais, je passe l'entretien. Et puis finalement, au bout de 10 minutes, il me dit, Stéphane, du coup, le responsable du réseau Action TI pour lequel je travaille, il me dit, peut-être que finalement, tu corresponds plus à un autre type de poste et que adjointe administrative, c'est peut-être sous-côté pour toi, en fait. Donc je te présente l'autre poste, tu regardes, tu me dis, et puis on voit. Donc il me présente l'autre poste, je regarde la fiche de poste, je me dis, ah tiens, intéressant. C'était pour être justement responsable formation et membership. Et je me dis, mais c'est un peu déjà ce que je fais avec mes clientes. Donc, je commence à sourire à ce moment-là. Et je me dis, c'est peut-être un emploi salarié qui va me prendre du temps, mais c'est quelque chose dans lequel je suis déjà et qui va certainement peut-être m'apporter, ne serait-ce que les connaissances des deux côtés ou les compétences des deux côtés vont m'apporter. Donc, allons-y, on verra. Donc, je passe un deuxième entretien qui dure à peine 30 minutes. Et puis, proposition le lendemain. Et puis, le 9 août, j'ai commencé à travailler.
waouh.
Non, pour moins d'un mois.
Ouais,
moins de deux mois.
Il y a plein d'autres choses qui, j'imagine, arrivent derrière et que tu m'as déjà un peu raconté, mais je voulais juste zoomer déjà là sur. C'est hyper intéressant parce que quelque part, c'est au service de ce que tu veux apporter à tes clients et tes clientes.
Oui.
De passer par cette case de cet emploi-là.
C'est ça.
Qui est un peu dans le même univers. Mm-hmm. T'as plein de membres de plein d'entreprises différentes, comme c'est tu m'as expliqué juste avant que. Voilà, tu les fais se mêler ensemble, avancer ensemble sur des réflexions.
Oui.
Vous allez créer des formations pour ce public-là.
Oui.
Et je me dis, c'est hyper intéressant parce que on pourrait percevoir ce truc de « Ah, je reprends un job salarié presque comme un échec.
Mm-hmm. »
Alors qu'au final, j'ai l'impression que c'est plus là pour toi, un pas de plus dans la direction de ce que tu as vraiment envie d'apporter à tes clients.
C'est ça, mais c'était la troisième réflexion de me dire « Mais est-ce que finalement, le fait d'accepter ça, vu que là, l'univers m'envoie peut-être un signe, je tombe sur un emploi qui est toujours dans la lignée de ce que je veux faire. » Donc, vas-y. Et puis, est-ce qu'en y réfléchissant, ça ne va pas justement t'apporter beaucoup plus que ce que tu penses finalement ? Parce que c'est un réseau, enfin, ça s'appelle Réseau Action TI, c'est un réseau, donc c'est du réseautage à la base. Donc, peut-être que même en y allant pour trouver juste des personnes avec qui tu vas travailler plus tard, ça sera déjà un plus. Mais tu pourras peut-être apprendre des choses et apporter des choses aussi, et puis tu verras comment ça se passe. Donc avec cette réflexion-là, j'y suis allée un peu plus tranquille, tu vois, un peu plus posée, de me dire, ok, là, je reprends un emploi salarié, mais c'est pas un échec en soi, en effet.
Ouais.
Et puis, je crois que la quatrième réflexion qui a entériné tout le reste, en fait, c'était, j'ai réécouté un épisode de ton podcast où tu en parlais un petit peu de... justement, passer de salarié à entrepreneur. Et je me suis dit, ben, l'inverse, en fait, est souvent, en effet, considéré comme un échec. Alors que si on regarde bien les choses, j'ai peut-être, enfin, avec ma vision à moi, parce que je suis restée dans le même domaine, mais de cette vision-là, de passer de, finalement, entrepreneur à salarié, j'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses en étant entrepreneur.
Ouais.
Que j'aurais beaucoup plus à apporter en fait en tant que salarié. Et d'autant plus dans un autre pays où là, ben, rien que les 3 mois que je viens de passer là en tant que salarié, la vision du travail est complètement différente. J'y suis bien et j'ai la chance de travailler dans un OBNL. Donc on est tout petit, on est 5 dans l'équipe, même si on est à 1200 membres et 18 000 personnes dans nos infolettres.
OBNL, mais, c'est Organisation, but
Organisation à but non lucratif, c'est ça. Donc petite équipe, mais on a des événements à fort impact. Le dernier événement, c'était à Québec il y a encore un mois et j'étais étonnée de voir qu'il y avait quasiment 1000 personnes en fait. Quasi 300 en présentiel et puis le reste en ligne. Mais je me suis dit, ah oui, en fait, il y a des gens qui connaissent l'événement, la GIC, et qui connaissent même pas l'organisation qui le prépare. Donc il y a quelque chose à faire justement du côté membership pour aller chercher plus de membres ou bien pour aller bichonner encore plus les membres. Et ça, je sais faire en fait. Donc finalement, je sais le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à le faire avec mes clients. Parce que je me suis formée pour ça, parce que j'ai écouté tes podcasts et que justement, ce que j'ai retenu dans le podcast dès le départ, c'est ce côté humain des choses. Et que ça, je sais faire maintenant. Je sais comment aller chercher les gens. Je sais comment appréhender les choses par rapport à ça. Et c'est ça maintenant que je vais apporter en fait dans mon travail salarié.
C'est hyper intéressant et je pense que ça renourrit aussi dans l'autre sens.
Oui.
Le fait de le continuer de le faire pour tes clients. Et
exactement.
Clients, voire même mieux. Et c'est ça que... Je me suis dit que c'était une formidable occasion, cette conversation qu'on allait avoir pour déconstruire ce côté salarié, VS, freelance, machin. Mm-hmm. Et en fait, c'est, dans ton cas, là, j'ai l'impression, c'est plus, j'ai un projet de ce que je veux apporter grâce à mon travail, qui est un outil pour créer des transformations, je le dis souvent,
oui.
Mais pour créer des choses qu'on a envie de voir dans le monde. Et que tu le fasses sous ta forme freelance avec ta boîte pour tes clients ou dans l'entreprise qui te salarie aujourd'hui, t'es au service de cette mission quelque part.
C'est vrai.
Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre d'une manière ou d'une autre, tant que toi, t'as trouvé un alignement qui te parle. Quoi.
Mais complètement. Et plus j'avance et plus j'ai l'impression que les choses s'alignent. Parce que j'ai nourri plusieurs réflexions derrière. J'ai nourri ce vers quoi je veux aller vraiment avec mon entreprise. Je le dis comme ça, même si c'est très loin dans ma tête et que je ne sais pas si ça va se réaliser tout de suite. Mais à un moment, j'aimerais bien pouvoir... je ne pourrais pas tout faire seul, je ne pourrais pas aider tout le monde. Donc, ne serait-ce qu'avoir quelque chose qui ressemblera à une agence, tu sais, un peu comme les agences, les SS2I dans les entreprises informatiques, avec un pool d'assistantes virtuelles qui irait dire, ok, toi, ta personnalité, c'est ça, parce que c'est toujours important de passer par là, et qu'il y a tel entrepreneur, sa personnalité, c'est un petit peu ça, je peux vous mettre en contact, en fait, et puis s'il cherche une assistante virtuelle, il cherchera pas juste dans le vent, il cherchera quelqu'un, en fait, de cette façon-là. Donc, ne serait-ce qu'être relais comme ça, c'est un projet que je nourris depuis longtemps. Je me dis, OK, ça peut se faire petit à petit. Ouais. Et quand tu es arrivée et que du coup, ben, le poste d'assistante finalement d'adjointe administrative était vacant, vu que je n'ai pas pris ce poste-là, Stéphane il m'a demandé, mais peut-être qu'en fait, toi, tu peux m'aider à trouver une assistante administrative. Peut-être que je ne sais pas déléguer, je ne sais pas quoi déléguer en fait. Mais toi, c'est ton métier quelque part. Mmh. Donc, tu peux m'aider à le faire, tu peux m'aider à y arriver. Et je vois déjà en fait tes relations avec tout ça. Mmh. Et à un autre moment, je me suis dit, mais même dans le membership, pourquoi on reste au Québec? Pourquoi on ne va pas chercher des gens, des plus jeunes peut-être, qui vont adhérer à l'association, des gens en France, pourquoi pas des gens en Afrique? Ça se développe aussi de plus en plus là-bas. Donc, dans mon pays, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses qui se passent dans ce domaine-là, tellement de choses qui changent, qui bougent. Pourquoi on n'irait pas chercher justement des gens jusque là-bas? Et il n'y a pas très longtemps où on a eu l'opportunité de se dire, ah oui, il y a peut-être quelque part à faire une sorte de collaboration justement avec des entreprises en Afrique. Je dis, ah tiens, tu vois. Enfin, il y a toujours des petites choses comme ça finalement, ouais, depuis que je suis arrivée, qui s'alignent. Et puis tu te dis, ben, il fallait juste en fait que je prenne la décision de partir, même si elle était très dure et que j'ai presque été en dépression pendant un mois de me dire, je vais partir. Mmh. Et puis là finalement, tu te dis, ben, en fait, je suis juste alignée, je suis juste là où je suis. Et puis ouais, je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle je vais aller loin, mais pour laquelle finalement je vis en fait. Mmh. Mais c'est complètement ça.
Trop intéressant. Et il y a un autre truc auquel je touche là quand tu parles, c'est j'ai l'impression que tu vois, cette espèce de... Quand on est indé et qu'on est dans ce format de... On doit constamment inventer de nouvelles choses pour avancer. Genre, il y a cette grande forme de créativité de...
Oui.
OK, c'est une page blanche, qu'est-ce que j'en fais? Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est une compétence qui est hyper intéressante, là, pour toi, quand tu reviens en entreprise, de se dire, OK, voilà comment on a fait les choses pour l'instant, mais pourquoi pas aller en Afrique?
Exactement.
Genre, c'est une case qui n'était peut-être pas ouverte avant, mais du fait de nos expériences freelance... où t'es tout le temps en train d'essayer de créer des nouvelles
cases.
C'est
vrai.
Tu rapportes ça aussi, quoi.
Et oui. Et de faire des tableaux et tout ça pour les autres freelances, pour suivre les choses. Et puis là, tu arrives, tu dis, OK, qu'est-ce que vous avez fait au membership jusqu'à présent? Pas grand chose. OK, ben, écoute, je vais juste rapporter ce que je sais des freelances là.
Ouais.
Je vais construire des tableaux de bord. On va faire ci, on va faire ça. Et puis je vais rapporter, ben, finalement, les outils et tout ce qu'on utilise du côté freelance. Et puis les rapporter un petit peu dans le monde de l'entreprise pure. Forcément, les modifier un petit peu, mais Ça marche aussi et ça match complètement dans certains cas.
Ouais. Et du coup, juste pour être clair, tu continues tes missions avec tes quatre clientes, c'est ça, à côté?
Là, en ce moment, non, j'en ai deux.
Deux.
J'en ai deux et je pense que dans mon métier, je sais pas, vous en aviez parlé un petit peu avec Sonia dans le podcast. Si tu veux vraiment être dédié comme je le veux avec mes clients,
manager.
Voilà, business manager, tu peux pas en avoir plus de deux, voire trois.
Ouais.
Et là, déjà que je suis pas à temps plein.
En plus. Donc oui.
Deux, c'est déjà
c'est deux
pas mal.
Long terme, c'est plus
c'est
stable
ça.
Et plus récurrent.
C'est deux clients long terme. Et puis, éventuellement, il y en a peut-être un ou deux qui se rajoutent sur du court terme pour des stratégies sur 3 mois, des trucs comme ça. Mais deux clients long terme, c'est pas mal, c'est bon.
Et qu'est-ce que tu vois que ça t'apporte, du coup, ton nouvel emploi pour ces clientes-là, parce que du coup, là, on a pas mal parlé de ce que cette expérience freelance t'apporte à l'entreprise pour laquelle tu bosses maintenant. Mais enfin, voilà, j'imagine que c'est un cercle vertueux et tout se nourrit. Peut-être qu'il y a des choses concrètes que tu as déjà touchées. Je sais que ça fait que 3 mois, mais est-ce que tu vois déjà des choses qui renourrissent dans l'autre sens?
Complètement, les outils, déjà. Rien que les outils. On a utilisé, pour la GIC, le dernier événement dans mon emploi salarié, un outil de réseautage.
Okay.
Et un outil de réseautage que je vois complètement comment utiliser avec mes clientes pour leur future formation ou pour autre chose. Donc, dans ce sens-là. Et puis, il faut dire la vérité, rien que le fait que mon entreprise, en fait, sait que je suis donc freelance à côté, j'ai une certaine flexibilité, il ne faut pas exagérer non plus, hein, je fais mon emploi, mes 37 heures comme il faut les faire, mais une certaine flexibilité comme par hasard aujourd'hui, je suis partie du boulot à 15h. J'ai dit, là, je vais être interviewée pour un podcast, il faut que je parte. Il m'a dit, oui, ça sera cool, vous allez parler de quoi? Enfin, sans le sentiment de, d'être en entreprise et de pointer, oui, je rentre à 9h. C'est ça, tu vois. Donc oui, rien que ça change tout. Ça change tout, en fait, de se dire, OK, j'ai peut-être encore plus de temps pour apporter des choses à mes clientes. Mais là, oui, clairement, concrètement, plus les outils, tu vois. En ce moment, c'est plus les outils. Et puis, un peu les méthodes de travail aussi. Les méthodes de travail, OK, oh, vous faites les choses comme ça. Ah tiens, je peux l'adapter de cette façon, en fait, pour l'apporter de l'autre côté.
Ouais,
ça pourrait m'aider à aller plus loin.
Et tu peux faire un mix.
C'est ça. Mais surtout, de demandes où tu es force de proposition aussi, où tu peux discuter de ce genre de choses assez aisément. Ce que je n'avais pas dans mes emplois avant, où c'était, tu proposes propose quelque chose, mais il y a tellement de strates de décisions au-dessus que finalement, tu te dis, j'ai l'impression de ne pas servir à quelque chose alors que j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Mais là, on te challenge sur les idées, c'est concret. Là, je pars directement avec le directeur de l'entreprise. Donc, on échange dessus, mais c'est très concret. Je veux dire, ce que je dis ou ce qu'il dit, en fait, ça sera accompli, établi demain. Mmh. Et je le vois concrètement et je vois les résultats concrètement, en fait. Donc, je peux savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et me dire, OK, ça, c'est intéressant de le copier ou de le rapporter, de le modifier, en fait, dans mon autre monde. Ou ça, c'est intéressant de le rapporter aussi.
Ouais, trop bien. Et du coup, là, c'était un exemple pur sur tes clients actuels. Mmh. Mais je suis curieux aussi, parce que j'en vois, par exemple, pour ton entreprise au sens général et le futur de ton entreprise à toi, de ton activité à toi. Tu vois, un des exemples qui me venait quand tu me parlais, c'est... je sais que vous êtes implanté à WeWork ici et que tu bosses là-bas.
Oui.
Et je ne sais pas combien il y a de gens, mais en général, à WeWork, il y a une énorme diversité de personnes, des freelances, des indés, des peut-être futurs clients pour toi.
Oui.
Et je me dis, ça juste au niveau de ton entreprise à toi, être présente dans un écosystème comme ça, peut-être rencontrer plein de gens dans une ville où, comme disait ton conjoint, tu connais personne, ça a grave de valeur pour ton entreprise à long terme que, OK, j'arrive à Montréal, je suis dans un endroit qui bouillonne avec plein d'entrepreneurs, donc je fais du réseau, je rencontre des gens, même si tu quittes cet emploi dans 6 mois, disons. T'auras construit un réseau grâce à ça, quoi.
C'est ça. Et là, je fais du réseautage déjà au sein de l'entreprise, tu vois. Mais quand je me présente, même au sein de l'entreprise, je me présente en tant que responsable du membership de la formation de l'entreprise. Mais avec des personnes avec qui je vais parler plus loin, forcément, je vais dire aussi que je suis freelance à côté. Et j'ai déjà eu une ou deux propositions comme ça de dire, ah oui, tu devrais m'envoyer ta page LinkedIn parce que je crois que j'ai besoin de pouvoir déléguer des choses derrière. Donc, forcément, tu vois, à ce moment-là, il y a des opportunités comme ça. Et puis, tu parlais de WeWork. J'ai la chance qu'en étant à WeWork, on n'est pas, tu sais, comme tout le monde qui pourrait venir comme ça avec sa carte de freelance et s'asseoir un petit peu là où il y a de la place et travailler. Nous, on a des bureaux et chacun a son bureau. Donc, demain, je peux décider pour mon entreprise d'aller organiser une masterclass à WeWork. J'ai la carte, en fait, tu vois. Je suis rentrée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, dimanche, je peux décider, en fait, d'aller organiser une masterclass de 10 personnes et puis aller louer une salle à WeWork. Et puis, et ça, c'est mon entreprise qui me le permet. Donc, oui, il y a plein de petites choses comme ça.
À des espaces pour faire des choses, même au titre de ta boîte.
Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est énorme déjà, rien que ça.
Ouais. Et je me disais aussi un truc qui m'est venu là quand tu donnais l'exemple de la GIC. C'est quoi, d'ailleurs, quand tu dis la GIC, c'est un acronyme, j'imagine.
Oui, les Journées de l'information du Québec.
Ok, très bien. Et du coup, sur cet événement, je me dis, c'est un marqueur de crédibilité génial pour ta boîte et tes clients à toi, pour dire on a organisé des événements à plus de 1000 membres qui faisaient partie de notre réseau et de notre écosystème.
C'est vrai.
Pour le futur, pour tes clients aussi, juste comme marqueur de crédibilité, c'est génial, je trouve.
Complètement. Quand je suis arrivée au réseau, j'ai fait un post sur LinkedIn. Je crois qu'aujourd'hui, il doit être à 600 likes ou un truc comme ça. Wow. Et c'est la première fois, et ce sera peut-être la dernière, que j'ai un poste qui va aussi loin en parlant du réseau et des activités du réseau, etc. Donc, j'espère que le nôtre aussi, quand je ferai un poste pour dire que je suis passée dans ton podcast, sera autant. et Stéphane m'a répondu, mon PDG, justement, il m'a répondu, en fait, tu as fait un poste qui a fait autant de likes que ce que nous, on fait au réseau en un an. Et t'imagines pas le nombre de personnes justement qui sont revenues vers moi pour des opportunités d'emploi, pour autre chose, mais déjà il a élargi aussi son réseau en fait avec ça. Et là j'étais fière de ça en fait, de ne serait-ce que ça, tu vois.
Ouais, grave.
Donc oui, il y a toujours un truc qui fait que les deux mondes se rejoignent, toujours.
Ouais, c'est clair, parce que je me dis, ouais, encore une fois, sur ces deux exemples-là, ça montre à quel point sur ce truc de je sais où je veux et ce que je veux apporter à mes clients au travers de mon activité sur du long terme. Peut-être que la meilleure stratégie pour y arriver, c'est passer par une brique de je prends un emploi salarié pendant un an pour ensuite revenir avec marqueur de crédibilité, réseau. Enfin, ça peut être super puissant, quoi.
C'est
au-delà
ça.
De me dire « Ah, je vais faire ma stratégie, ce sera que du Instagram ». Peut-être que c'est bien plus pertinent de faire un an salarié.
C'est une stratégie en plus.
Plutôt que de se dire un an sur Instagram, quoi.
C'est vrai, c'est peut-être une stratégie en plus, en effet. Quand j'étais embauchée, pareil, il m'a dit, si tu veux, tu sais, on sait que c'est pas forcément des emplois à long terme. Donc, si tu restes un an, deux ans, c'est pas très grave. Même si tu restes moins, c'est pas très grave. Et moi, je suis rentrée, en fait, et plus j'avance, plus je vois la mission que j'ai à accomplir là, qui se dessine. Et je m'y vois pas. Tu sais, je mets même pas de limite aujourd'hui. Au départ, ouais, je me disais peut-être, ouais, on va voir. Je vais rester quelques temps et je vais aller construire le reste à côté. Mais là, je suis plutôt en train de dire, monte d'une strate encore dans ta posture de chef d'entreprise. Et puis, va te créer une équipe, toi, derrière. Va chercher d'autres assistantes virtuelles derrière qui vont t'aider à développer ton entreprise. Et continue de faire ce que tu as à faire aussi au réseau et d'adopter juste ta posture de chef d'entreprise pour Monattache, finalement.
Donc, ce serait ça, du coup, la prochaine étape ?
Ça serait ça, la prochaine étape. Okay. Donc, je suis déjà dans ce processus-là de me dire, OK, c'est bien de dire à tout le monde d'aller déléguer pour les autres, d'aller, d'aller leur chercher des assistantes virtuelles, d'aller leur créer des équipes. Mais là, je pense que oui, j'ai besoin pour mon activité, moi, de faire la même chose aussi. J'ai commencé petit à petit à travailler avec des copywriters pour le blog, à travailler avec une personne en communication pour m'aider à organiser un événement bientôt. Tu vois, à me dire, OK, il y a des choses en fait que je peux plus tout faire, même si j'aime tout faire, je peux plus tout faire. Donc, ce que tu dis aux autres, fais pareil, fais pas comme les docteurs, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais à un moment, oui, crée ton entreprise, enfin, crée ton équipe aussi. Et puis voilà, donne la chance aussi à d'autres personnes de te suivre dans cette aventure-là, sur ce projet-là, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire.
Et du coup, je me demande, est-ce que le fait d'avoir une sorte d'assise financière en arrivant là aussi avec cet emploi, est-ce que ça, ça contribue à te dire j'ai un levier financier pour investir sur une équipe ?
Ouais. Oui. Oui, parce que ben, justement, je ne suis pas riche non plus, mais oui, j'ai deux revenus. Donc, mon revenu salarié va me servir ben, pour la vie de tous les jours, pour le loyer, pour tout ça, tout ça. Et forcément, ce que je gagne en entreprise m'aide à réinvestir, réinvestir à chaque fois. Je réinvestis direct. Donc, il n'y a rien qui sort de là. Pour le moment, je ne fais que réinvestir. Et puis, j'essaie de me dire, OK, tu avais plein de gros projets. Là, c'est le moment justement de te dire, tu investis pour ça. Tu les mets en place et tu verras.
Ouais.
Donc oui, ça change aussi la perspective.
Ça fait un effet de levier pour plutôt que de dire, ah, il faut que ça me paye ici, ça et autre. C'est sûr.
Je pense que je serais restée justement freelance. Je serais en train de me dire, OK, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas te permettre pour le moment. Donc attends un petit peu ou bien on verra, tu faudra prendre plus de clients, mais enfin tu verras comment tu feras, mais plus tard. Là en fait je me pose même plus la question, tu vois, c'est j'ai la possibilité de réinvestir, donc pour des choses qui vont m'aider à aller encore plus loin, je réinvestis direct parce que je sais que de l'autre côté pour ma vie de tous les jours, j'ai un revenu déjà assuré. Ça c'est vrai que ça change énormément de choses dans la perspective. Beaucoup.
Trop bien. je suis trop heureux de ce qu'on se dit parce que je me dis je suis sûr, il y a plein de gens qui peuvent potentiellement nous écouter, qui sont dans une espèce de moment un peu entre deux sur leur activité, et pour qui ça peut être un super gros poids de se dire je vais reprendre un emploi. Et je pense que ça peut apaiser, genre un truc en mode.
Ouais.
Même pour moi, tu vois, il y a un truc qui fait genre. Oh,
c'est vrai.
C'est pas grave en fait. Ça se trouve, c'est la meilleure chose que je peux faire. Et je pense que ça fait. Enfin, je projette peut-être, hein, mais je me dis, il y a plein de gens, ça va peut-être leur faire grave de bien de se dire. Ok, c'est pas grave quoi. Genre 6 mois, 1 an, 2 ans dans ma vie, sur une mission que je veux me donner, de ce que je vais apporter grâce à mon travail, si je passe par une case salariée qui m'apporte énormément de choses, fine. Genre,
c'est sûr, c'est sûr. Faut penser long terme et faut rester toujours sur ce que tu aimes dire, souvent revenir sur le pourquoi. Revenons sur le pourquoi à chaque fois. J'ai une amie que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui est devenue une bonne amie, que j'aime beaucoup, qui a un compte sur Instagram qui s'appelle Mon Budget Bento, et où elle parle finance, bien évidemment, et qui est très cash dans ce qu'elle dit. Et que, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Finance cash. Et qui dit souvent, et qui répète souvent, justement, dans ses posts, faut pas avoir honte, en fait, quand on sait où on va. On a un pourquoi, on a un objectif, on sait où aller, tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, il n'y a pas de honte à avoir de te dire, OK, c'est pas se rabaisser de prendre un emploi salarié. Et si tu es déjà salarié, éventuellement, enfin, de parenthèse, c'est pas se rabaisser de dire, j'ai besoin d'un deuxième job à côté. Non, tu as un objectif, en fait. Ouais. Tu as juste un objectif à atteindre. Si l'idée, c'est d'avoir 10 000 euros sur ton épargne, ben, fais tout pour avoir ces 10 000 euros.
Ouais.
Si t'es freelance et qu'il faut reprendre un emploi salarié, vas-y, quand t'auras atteint tes 10 000 euros, tu arrêteras ou tu passeras à autre chose. Mais il n'y a pas de honte à avoir tant que tu es toujours animé par ton pourquoi et que tu sais où tu vas.
Ouais.
Donc, tant que tu sais ça, t'es sur la bonne voie. Ouais. On est bon.
Tant que tes actions sont alignées avec ton,
exactement.
Ton enjeu.
Exactement.
C'est pas grave que ce soit action A ou action B.
C'est ça.
Que ce soit aligné, c'est ça l'important.
Faut que ça arrive. Tu as la lumière au bout là-bas du tunnel. Faut juste y arriver.
Ouais,
que tu montes au-dessus du tunnel, que tu glisses, que tu passes à gauche ou à droite. C'est pas très grave, mais il faut y arriver dans tous les cas. C'est ça le truc. Et ça, oui, ça fait un impact à chaque fois. Ça tape un peu dans la tête et tu te dis, OK, oui, c'est vrai, j'y vais.
Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui va m'aider à y aller?
C'est ça. C'est ça. Donc il faut y aller, j'y vais.
Trop bien. On va arriver sur les questions rituelles de,
oui.
de fin de discussion que tu connais un peu. La
oui.
première, c'est si, c'est quoi la grosse, plus grosse difficulté que tu as vécu dans ton aventure entrepreneuriale depuis juste après l'association, quand tu t'es lancée. Et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté ?
Elle était personnelle, la plus grosse difficulté. Okay. Elle était personnelle, c'est d'aller chercher au fond de moi tout ce qui faisait que ce syndrome de l'imposteur, il était peut-être trop énorme finalement. De me dire que je ne pouvais pas y arriver, que je n'étais pas capable, que je ne gagnais pas assez notamment. Enfin, toutes ces choses-là qui faisaient que finalement je doutais énormément de moi et de ce que je pouvais faire et de ce que je pouvais avoir éventuellement comme impact sur les autres. Donc c'était ça la plus grosse difficulté, c'était vraiment d'aller chercher. J'ai dit tout à l'heure le mot dépression, mais c'était presque ça en fait quand mon compagnon est parti. Et à un moment, je me suis retrouvée avec moi-même en train de me dire mais où tu vas en fait ? Reviens, pose-toi, assieds-toi sur ton pourquoi. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes à ce moment-là. On parlait de Virginie pour la naturopathie, mais les bonnes personnes à ce moment-là qui m'ont aidée en fait à me faire comprendre que j'ai de l'impact et que j'ai une mission et qu'il faut arriver à la suivre. Donc le travail sur soi a été difficile, vraiment difficile, vraiment vraiment difficile. Je pense que c'était la plus grosse difficulté depuis. Une fois que j'ai dépassé ça, j'ai l'impression que tout le reste en fait s'est aligné tout d'un coup. Tu vois, tout s'est aligné vraiment.
Donc ouais, un gros sujet de doute finalement. Oui. Et ce qui t'a aidé à faire la différence, c'est le miroir d'autres personnes qui te font te rendre compte, en fait.
Exactement.
Tu fais déjà des choses de dingue, quoi.
C'est vrai. Tu reviens un petit peu en arrière et on te raconte, mais tu sais, il y a 2 ans, tu faisais ça. Il y a 3 ans, tu faisais encore ça. T'imagines un peu quand 2-3 ans, t'as fait ça, 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 ça. Tu te dis, ah ouais, c'est pas faux.
Ouais. C'est là où c'est super précieux d'avoir ce regard extérieur, parce qu'on peut se perdre tellement facilement dans notre propre système. Ouais. On est juste là à tourner en boucle sur des trucs qu'on se raconte et on se raconte ce qu'on se raconte.
C'est ça, etc. On se sent seul, on se sent seul. Et puis, dans les choses qui m'ont aidé, c'est de faire partie notamment de la communauté. Inside Freelancing, je parlais de Virginie, je l'ai rencontré là. Je l'aurais pas rencontré là si ni jamais Émilie Marmion qui est dans la communauté aussi. On a discuté peut-être juste 2-3 fois, comme Raphaël Torel, on a juste discuté 2-3 fois. Mais rien que ça, tu te dis, ok. Oui, ouais, je suis passée à un niveau supérieur. J'ai discuté grâce notamment à la communauté, je pense, dans les relations avec comment il s'appelle ton ami, Tribu Indé.
Pourquoi Alexis, je parle Minkara.
Alexis. J'ai discuté avec Alexis. On a eu un zoom ensemble et je me suis dit, t'as discuté avec Alexis Minkara, quoi. Est-ce que tu t'en rends compte un petit peu? Et je crois que c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré rapidement, discuté avec Julie et Julia de I Don't Think. J'ai pu discuter avec tout ça juste après avec Aline de BeBoost, avec Dorian Baker, parce qu'elle était passée notamment justement dans Inside Freelancing à une masterclass et qu'après on a discuté ensemble. Et je me suis dit à un moment, mais arrête-toi et regarde tout ça. Et rien que le fait de pouvoir leur parler, de parler de certaines choses, te dis ok, j'ai de la valeur en fait dans ce que je fais. Donc ce que je fais n'est pas vain, c'est pas juste faire pour faire, c'est pas l'impression de juste comment tu disais tout à l'heure en fait, dedicate à tous mes clients de cette façon-là. Mais c'est pas pour rien en fait, c'est vu, c'est reconnu et c'est reconnu par des gens que tu admires et là ça prend encore plus d'impact. C'est comme si Beyoncé descend demain et puis elle te dit
d'ailleurs, hey. Surprise, Beyoncé.
Là je pars tout de suite, je te laisse là, je te dis. Mais oui, ça a énormément d'impact d'avoir un entourage comme ça, vraiment.
Trop bien. Et peut-être que ça va être issu de ça ou pas, ou de ce qu'on s'est dit. La question d'après, c'est si t'étais face à Nuna qui débute, c'est son tout premier jour. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même, à ta version passée de toi-même, par rapport à ce que tu as appris depuis?
Ça me fait rigoler parce que j'ai vu cette question il y a quelques jours et Maëva du Bingé Bento, je t'ai dit qu'elle est cash. Quelqu'un lui a posé la question et puis elle a répondu, je lui dirai rien. Je lui dirai rien. Parce que si elle avait pas fait tout ce qu'elle a fait, elle serait pas là aujourd'hui. Yeah. Et je lui ai dit, je me range à ça. Je lui dirai rien. Parce que oui. C'est de toutes ces difficultés et ces embûches qu'il y a eu sur la route et aussi ces joies et ces succès, c'est tout ça qui font finalement la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc,
et tu ne voudrais pas être différente.
Oui, voilà, ne ferme pas les yeux, vas-y, tu verras. Tu verras ce qui t'a, comme je dis à ma fille, non, vas-y, vas-y. Mais si tu sais qu'elle va se casser la tête, vas-y.
Ouais, mais bah, en vrai, c'est hyper important, je trouve, je suis d'accord. Hein. C'est les petits pas à chaque moment de nos avancées qui forment la personne qu'on devient. Oui. Et tout ça, c'est un cycle, quoi.
Exactement. C'est après qu'on s'en rend compte, mais dans tous les cas, il y a un moment où on s'en rend compte. Ouais. Il ne fallait pas changer les choses. C'était juste comme ça. C'était juste écrit comme ça. Il fallait juste continuer.
Trop bien. Et la dernière question qui est ma préférée, que tu connais, c'est si on se tourne vers les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est quoi la question que tu aimerais leur poser pour que d'ici à la prochaine fois qu'ils écoutent le podcast, ils réfléchissent à leur vie d'indépendant et à leur activité? Une question.
Une question. Elle est toute petite. Je ne vais même pas sur un sujet en particulier, mais elle veut dire beaucoup pour moi en tout cas. C'est de quoi as-tu peur pour passer à autre chose? De quoi as-tu peur? Va réfléchir tranquillement sur tes 9 domaines de vie, sur tout ça. Mais de quoi as-tu peur?
Tu peux préciser ce que tu entends par pour passer à autre chose, du coup?
Pour passer à autre chose.
Ce que tu as dit, si, ouais. Si j'ai bien entendu, tu as dit de quoi tu as peur?
Pour passer à autre chose, ouais. Si, si. Est-ce que tu entends comme le stade d'après, comme le level supérieur? C'est... Ben oui, forcément, tu vas le définir d'abord, mais généralement, tu le sais, tout le monde le sait, c'est quoi l'instant d'après? Mais de quoi tu as peur pour passer à ça?
Ouais, avant d'oser briller un cran plus haut. Quoi.
C'est ça.
Interesting. T'as ta propre réponse, toi, ou pas? Je suis curieux.
Oui.
Tu serais OK de nous partager?
Oui.
Trop bien.
Je pense que j'avais peur de... C'est bizarre de le dire comme ça, mais peur de réussir. Peur de réussir et puis d'avoir tout l'impact qu'il y a derrière. Je disais, je suis une people pleaser et que j'aime bien mettre faiseuse de star et toi, tu restes derrière et les gens en avant. Et réussir, ça veut dire que tu te mets en avant. C'est toi qu'on voit, c'est pas les autres. Là, je travaille, je t'ai dit, sur un prochain événement, j'aimerais bien faire un sommet virtuel. Tu vois, ça fait un moment que j'ai ça en tête. Sommet virtuel sur l'assistana, parler de l'assistante virtuelle et tout ça. Et puis, je me dis... Ouais. Ouais, j'ai envie d'aller chercher des gens, tu vois, pour en parler, comme toi, qui a un bras droit et tout ça. Et j'ai dit, mais il y a toujours le oui, mais. Et si tu réussis vraiment à avoir toutes ces personnes, et si ça marche, et si ça prend, et si ça a l'impact, en fait, que ça, mais tu seras devant les caméras, en fait. Et c'est pas ce que tu es d'habitude ou en réalité, tu es celle qui est derrière. Donc, tu vois, j'en parle et je suis comme ça parce que, ouais, c'est. Je sais pas, peut-être question d'éducation, de plein de choses, mais oui, peur de réussir. Ouais, je dis toujours que c'est bizarre de dire ça, je suis la première à le dire, mais c'est vrai, peur de réussir.
Bah, je pense que c'est... Enfin, ça se comprend en même temps, parce que souvent, les associations qu'on fait avec réussir, entre guillemets, qui est un bien grand mot, mais c'est plutôt les circonstances de qu'est-ce qui se passerait si, c'est que ça change plein de choses dans notre quotidien, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous fait peur, c'est qu'est-ce que je vais vivre si jamais... Il y a un truc qui décolle, est-ce que je suis prêt à recevoir
est-ce ça? Est-ce que je suis prêt pour ça? C'est ça.
Est-ce que si tout ça change, comment ça va être dans mon quotidien? Quoi? Et je pense que c'est ça qui peut faire peur, tu vois.
C'est ça.
Le côté tout d'un coup, c'est compréhensible quelque part, t'en fais pas.
Tant mieux.
Tu es un être humain.
Ça va. On est bon, je suis encore sur Terre.
Trop bien, merci beaucoup pour,
mais merci à toi.
Pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui.
C'était, un vrai plaisir. Formidable. Un vrai plaisir.
Pour les gens qui veulent venir discuter avec toi davantage, peut-être venir au futur sommet virtuel.
Oui, j'espère.
Où est-ce que les gens peuvent venir te retrouver?
Nona Touch partout, sur mon blog s'appelle Nona Touch, Instagram, je suis plus présente sur Instagram et sur LinkedIn, je m'y remets petit à petit, mais surtout Instagram. Okay.
Donc Nona Touch, T-O-U-C-H, c'est ça?
C'est ça, exactement, la petite touche.
Je mettrai de toute façon les liens dans la description.
C'est gentil, merci beaucoup.
Merci à toi, bonne journée.
Merci aussi. Ciao.
J'ai adoré la question de fin d'épisode que Nona nous pose. De quoi tu as peur pour passer à la prochaine étape? Et c'est très vrai que souvent, ce qui nous retient d'avancer dans les directions qui font véritablement sens pour nous, c'est la peur. On pourrait d'ailleurs dédier un épisode entier à ce sujet, mais pour clôturer, je voulais simplement partager une petite phrase que Diane, qui travaille avec moi, qui a le même métier que Nona, adore. La fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient. Et cette phrase me rappelle qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Et que donc sans la peur, et notre capacité à la dépasser, on ne goûterait pas à cette merveilleuse sensation de fierté qu'on ressent quand on fait des choses qui ont vraiment du sens pour nos activités et pour nos vies. Et je te souhaite sincèrement de pouvoir ressentir ça régulièrement en dépassant tes peurs. Si jamais tu veux que je continue de te soutenir dans ce chemin, la meilleure chose à faire, c'est de venir t'abonner à ma newsletter hebdomadaire sur thomasburbidge.com/newsletter. Et d'ici là, je te dis à tout bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.